Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars, c'est dimanche. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric.
Dans l'actualité de ce dimanche, les hommages rendus à travers les marches blanches. Hommage à Julie Douib, 30e victime des violences conjugales depuis le début de l'année. Le reste de l'actualité.
Nous reviendrons aussi dans ce journal sur la faible mobilisation des Gilets jaunes. Hier, et cela quelques jours de la fin du grand débat national. En Italie, un sursis pour le gouvernement italien divisé sur la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La publication des appels d'offres pour la poursuite des travaux pourrait être reportée. Et puis le père Hamel, égorgé en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, sera-t-il béatifié? L'enquête du diocèse est maintenant terminée, elle sera remise en avril au Vatican.
Les invités à partir de 8h20 à propos des conséquences pour la France d'une crise profonde en Algérie. Eh bien on va en parler avec deux invités, la sociologue Feriel Lalami, elle est spécialiste des mouvements sociaux et des femmes au Maghreb. Et on en parlera aussi avec le journaliste Akram Belkaïd et les journalistes au Monde Diplomatique, au quotidien d'Oran et également au site Lorient 21. Vos questions, c'est sur le site franceinter.fr.
France Inter. Des marches blanches hier en hommage à Julie Douib, originaire de Seine-et-Marne. La jeune femme a été abattue dimanche dernier en Corse par son ex-conjoint. Elle avait porté plainte à plusieurs reprises pour violence. Elle a été abattue avec l'arme à feu de son assassin. Julie Douib est la 30e femme morte depuis le début de l'année, victime de violences conjugales. Des marches blanches ont eu lieu dans son village natal de Vers-sur-Marne et puis en Corse également. Et pour une de ses amies, Laetitia, eh bien, il faut se battre afin que ces drames ne se reproduisent plus.
Moi, j'avais la chance de la connaître, mais même pour ceux qui la connaissaient pas, c'était important de montrer leur solidarité, leur attachement à cette cause qui devient aujourd'hui quelque chose de très grave et dont tout le monde doit se sentir concerné, hommes et femmes. Je devais juste résumer la personne qu'elle était. C'était une fille adorable, d'une gentillesse hors pair et surtout une maman exceptionnelle. Et ce qui arrive aujourd'hui n'est malheureusement pas un cas isolé. La lutte doit continuer à tous les niveaux pour que ce soit la dernière.
Vous pensez que ça aurait pu être évité ?
Je ne sais pas si on peut parler d'être évité. Je sais que les plaintes qui ont été déposées ont été prises au sérieux. Alors après, il y a différents niveaux dans notre justice. Est-ce qu'il y a un moment où on aurait pu faire quelque chose, ne serait-ce que retirer le port d'armes à cet homme qui ne méritait pas d'avoir une arme, vu tout ce qu'il y avait autour. Aujourd'hui, j'accuse personne. J'ai juste envie de penser très fort à elle, à sa famille et de prier pour qu'elle repose en paix.
Et l'ancien conjoint de Julie Douib, âgé de 42 ans, a été mis en examen pour assassinat et placé en détention. À une semaine de la fin du grand débat national, la mobilisation des Gilets jaunes était hier au plus bas depuis le début de la contestation. 28 600 manifestants en France, 3 000 à Paris. Paris où la mobilisation a donné lieu à des incidents sporadiques entraînant des jets de gaz lacrymogènes et 19 interpellations selon la préfecture. Et puis à Toulouse, le scénario se répète désormais chaque samedi dans les rues. Les Gilets jaunes défilent pendant plusieurs heures dans le calme, puis des échauffourées éclatent en fin de cortège. Des manifestants qui en tout cas ne sont pas convaincus du tout par le grand débat national. Reportage à Toulouse de Suzanne Tchodaï.
Pas la peine d'en discuter, les manifestants ne veulent pas en entendre parler.
Oh non, là, c'est du blablabla, ça recule plutôt que ça avance. Hein.
C'est de la merde.
Ouria a les poils qui se hérissent quand elle entend le mot « grand débat ».
C'est du n'importe quoi, le débat, c'est pour endormir les gens, mais les gens ne sont pas dupes.
Selon Brigitte, le débat c'est...
De l'enfumage, ça sert à rien, c'est lui qui fait les questions, c'est lui qui répond pendant des heures, qui mobilise la parole... Il a déjà dit qu'il ne changerait rien, voilà. Ni l'ISF, ni les impôts. Nous, on en a assez. Voilà, c'est le ras-le-bol.
Parce que c'est un monologue.
D'autres manifestants pensent que c'est une mise en scène.
Tout est planifié d'avance. Moi, je crois que tout est organisé. On arrive à un seuil de corruption incroyable et intolérable. Moi, je suis convaincue que ça n'aboutira pas.
On est dans une oligarchie qui se transforme en dictature.
Et le président de la République a tort, selon lui.
Je pense qu'il n'a pas compris. Et là, il attend jusqu'à ce que ça pète davantage, d'après moi. C'est triste.
Ça pète pas déjà ?
Pour le moment, c'est léger. Je ne sais pas s'ils en ont pris conscience.
Maintenant, les gens, ils ont la haine maintenant. Ils ont poussé les gens à avoir la haine.
Autrement dit, le mouvement continuera comme si le grand débat n'avait jamais existé.
Une nouvelle étape vers la béatification du père Jacques Hamel a été franchie.
Le curé de 86 ans avait été assassiné en juillet 2016 par deux jeunes terroristes islamistes à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. L'audience de la clôture de l'enquête diocésaine s'est déroulée hier à Rouen. Cette enquête locale avait commencé en mai 2016. Elle a permis d'assembler dans un dossier plus de 11 000 pages de témoignages et d'archives du père Jacques. Antoine de Carme de France Bleu Normandie.
Une cérémonie qui vient clore deux années d'audience qui ont sollicité de nombreux proches
proche du père Hamel. Jeanine Coponnet se trouvait dans l'église le jour de l'attentat islamiste. Alors hier, beaucoup de sentiments se sont entremêlés.
De la fierté, et puis aussi de la joie de savoir que le père Jacques, qui était si humble, si effacé, soit comme ça reconnu comme quelqu'un de fort dans l'église. On est sûr qu'il va être béatifié.
C'est ce qu'espèrent en tout cas ceux qui ont monté ce dossier de 11 500 pages qui comporte de nombreux documents. Catherine Barbet, l'archiviste du diocèse, fait partie de cela.
On a les documents d'un prêtre, donc on a 615 homélies qui sont présentées. Et puis après, on a des photos, toutes sortes d'écrits, de la correspondance, les archives que tout un chacun a chez soi en fait.
C'est l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, en personne qui ira porter tout cela au Vatican en avril. Le dossier sera ensuite étudié scrupuleusement par les évêques et les cardinaux. Et cela peut prendre du temps, assure Dominique Lebrun.
Il faudra entre 2 ans et 5 siècles. C'est ce qui se passe à Rouen, d'habitude, j'ai envie de dire. Dans 2 ans, c'est le temps un peu incompressible, de façon à ce que la cause des saints puisse étudier les 11 000 pages. Et puis, 5 siècles, si ça se passe comme pour Jeanne d'Arc.
Mais tous espèrent au diocèse une décision nettement plus rapide de la part du pape François.
Dans l'actualité également, l'Italie qui veut éviter une crise gouvernementale majeure. La coalition italienne au pouvoir se laisse un petit moment de répit.
Les deux parties se déchirent sur le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Un sursis aurait été trouvé avec le report des appels d'offres pour la poursuite des travaux. La Commission européenne qui finance les travaux à hauteur de 40% a fait savoir que si lundi les appels d'offres pour les entreprises n'étaient pas lancés, bien l'Italie perdrait 830 millions de fonds européens. Olivier Tosseri.
Le TGV Lyon-Turin risque de faire dérailler le gouvernement italien. Le président du Conseil Giuseppe Conte arrive difficilement à jouer les médiateurs entre les deux alliés de son exécutif qui, sur ce dossier, s'opposent farouchement et refusent de céder. Luigi Di Maio, comme Matteo Salvini, ont fait savoir qu'ils iraient jusqu'au bout et qu'ils ne redoutent pas l'épreuve de force. Le mouvement 5 étoiles rejette catégoriquement une infrastructure qu'il juge coûteuse et inutile. La Ligue refuse de renoncer à une liaison ferroviaire considérée comme indispensable à l'économie et aux exportations d'une Italie en récession. Le compromis est donc impossible. Ce lundi, un nouveau sommet gouvernemental sera convoqué pour prendre une décision définitive qui ne cesse d'être repoussée. Ce même jour, les appels d'offres pour la poursuite des travaux doivent être lancés sous peine de perdre les financements promis par Bruxelles. Giuseppe Conte demande à ce que tout soit suspendu dans l'attente de rediscuter le projet avec la France et l'Union européenne. Mais lundi, c'est Matteo Salvini ou Luigi Di Maio qui aura le dernier mot. Celui qui pourrait bien signifier le terminus de leur alliance au pouvoir. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Au Mexique, 15 morts au moins dans une attaque à main armée contre une discothèque de l'état de Guanajuato dans le centre du pays. Selon des témoins, plusieurs hommes armés sont arrivés devant l'établissement. Ils ont ouvert le feu contre les clients et les employés avant de s'enfuir. Les causes de cette attaque sont encore inconnues, mais cette fusillade intervient alors qu'une vaste opération des forces de l'ordre a été lancée dans cet état contre un puissant groupe criminel spécialisé dans le vol de carburant.
En Australie, un hôtel de la chaîne Ibis, qui appartient au géant hôtelier français Accor, a été pris en flagrant délit de discrimination raciale.
Ça se passe à Alice Springs, la grande ville du centre du pays, dans le désert rouge, dans le territoire du Nord. L'établissement héberge ses clients aborigènes dans des chambres délabrées, où le ménage n'est même pas fait à Melbourne. La correspondance de Caroline Lafargue.
Des draps maculés de restes de nourriture, des serviettes sales, des bris de verre sur le sol. Voilà à quoi ressemblent les chambres officieusement réservées aux aborigènes à l'hôtel Ibis Alice Springs, au même tarif que pour les autres clients. La plupart de ces visiteurs aborigènes vivent dans des hameaux très isolés, à plusieurs centaines de kilomètres de là, et ils viennent se faire soigner à l'hôpital, en ville. Leurs nuits d'hôtel sont partiellement prises en charge par l'assurance maladie australienne. C'est un employé de l'hôtel qui a révélé cette discrimination cachée à leur rencontre à la radio nationale ABC, mais la gérante de l'hôtel Ibis nie ses pratiques. Quant à la direction du groupe hôtelier, elle se dit attristée et a déclenché une enquête interne. Mais la ségrégation est un fait courant dans les hôtels du territoire du Nord. C'est un secret de polichinelle, estime Sophie Trevitt, l'avocate d'une association de défense des droits des aborigènes. Et il n'y a jamais de sanctions, car même si les lois antidiscrimination existent, les clients aborigènes n'osent pas porter plainte. Caroline Lafargue, Melbourne, France Inter.
Et toujours pas d'électricité au Venezuela, la pire panne de courant de son histoire. Outre les télécommunications, la panne paralyse l'approvisionnement en eau, commence à menacer les aliments frais dans ce pays au climat tropical. Et surtout, cette panne de courant affecte les hôpitaux. Au moins 15 patients souffrant de maladies rénales sont morts en 48 heures faute de dialyse. Un mot de sport avec le rugby, des essais du rythme de l'opposition par moment et un public fervent. Le 15 de France féminin a passé une très bonne soirée à Dublin. Victoire 47-17 face à l'Irlande dans le tournoi des Six Nations. Et puis chez les hommes, France-Irlande, c'est à suivre cet après-midi à 16h.
Et on en reparlera dans le journal des sports de 8h10 sur France Inter. Merci Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Préfond, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur prefond-retraite.fr.
Attention, dans ces trois départements des Hauts-de-France, attention au vent violent. Vigilance orange d'ailleurs, Jean-Michel Golinski.
Oui, tout à fait. Un vent tempétueux aujourd'hui sur les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, placé en vigilance orange en raison des rafales possibles jusqu'à 110 km à l'heure. Du vent fort également entre le nord de la Loire et le quart nord-est, généralement vers 100 km à l'heure sur les côtes, 80-90 dans les terres. Vent qui va également se faire sentir autour de la Méditerranée vers 90 km à l'heure du golfe du Lion, côte varoise, 110 cet après-midi sur les caps corses. Avantage, il va maintenir un temps sec, contrairement au reste du pays, avec ce matin un ciel de pluie entre le nord de la Seine, les Pyrénées et les frontières de l'Est. Rapidement suivi d'un temps variable avec averse ce matin sur le quart nord-ouest, puis en journée jusqu'à l'Aquitaine, le centre et la Lorraine. Notez que dans l'agitation de la moitié nord, les températures vont perdre un peu par rapport à hier. Elles resteront stationnaires dans la moitié sud.